Les balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série d'entretien Pop en stock.
Chers popophiles, popovores et popophages de tout poil, nous voici encore réunis pour une nouvelle émission de Pop en stock en format zoomesque et transatlantique. Et cette fois-ci, nous avons le plaisir de recevoir Clémentine Houg. Bonjour Clémentine.
Bonjour Antonio.
Et qui va nous parler de son ouvrage consacré à William Burroughs et la science-fiction. Donc c'est William Burroughs SF Machine, publié dans les éditions Joue. Clémentine, tu es docteur en littérature comparée avec une thèse qui a été publiée sous le titre du Le Cut-up de William Burroughs, histoire d'une révolution du langage. Tu es aussi chercheuse associée dans le 3 Lames de l'Université du Mans. Qu'est-ce qui t'a amené tout d'abord vers les liens entre Burroughs et la science-fiction?
Le projet a cheminé assez lentement, puisque je m'intéressais par ailleurs à la science-fiction comme objet d'étude. J'ai commencé en fait à lire ce que lisait Burroughs, ce qu'il avait déclaré lire en tout cas dans plusieurs entretiens. Et il y avait énormément de science-fiction. Il disait régulièrement que c'était vraiment ce qu'il lisait le plus et avec le plus de plaisir. Et donc, je me suis amusée à lire ses propres lectures. Et j'y ai vu beaucoup de points communs avec des thématiques et aussi avec des procédés, alors de manière plus diffuse, mais énormément de liens thématiques avec son œuvre à lui. Par ailleurs, il y avait déjà beaucoup de travaux publiés sur l'influence qu'il avait lui-même eue sur la science-fiction à partir de la fin des années 60, du milieu des années 60, notamment la New Wave SF britannique, mais aussi américaine, et le cyberpunk. J'ai eu envie de mettre un petit peu tout ça en perspective dans un temps un peu long, vraiment de ses lectures jusqu'aux auteurs qu'il avait influencés, parce que j'ai trouvé qu'il y a des études hein, qui existent là-dessus, mais pas vraiment de champ d'ensemble, en tout cas pas de choses récentes sur une vue d'ensemble dont William Burroughs serait un peu le pivot, qui retracerait un peu cette histoire science-fictionnelle de son œuvre, qui est une œuvre très riche, très complexe, et qui met en jeu, en scène, beaucoup de thématiques très, très liées à l'ASF, très propres à l'ASF, hein, des envahisseurs extraterrestres, des guerres interplanétaires, etc. Donc c'est ça qui a présidé au livre. Et puis c'est une proposition justement de l'éditeur des éditions Joue qui, de fil en aiguille, on en est venu à en faire un livre.
Tu dirais que c'est un peu dans le fil de ton travail sur le cut-up que est émergé cela, ou c'est quelque chose qui déjà prédatait dans ton intérêt pour Burroughs lui-même, avant ta thèse, disons?
En l'occurrence, c'est vraiment venu du cut-up et de la trilogie Nova, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette trilogie qui est celle qui pousse le plus loin l'utilisation du cut-up, une technique de découpage-collage qui poussait un peu à son extrémité ici dans le cadre d'une création romanesque et en plus d'une trilogie qui est donc vraiment émaillée de cette thématique, enfin complètement constituée de cette thématique science-fictionnelle. Et c'est en travaillant sur le cut-up comme procédé d'écriture, parce que j'ai commencé à travailler sur ce procédé dans une histoire du collage, aussi déjà en partant des influences de William Burroughs sur le collage, enfin sur des œuvres en collage. Et c'est là qu'a émergé en fait cette interrogation sur son intérêt et les sources science-fictionnelles qu'il avait pu avoir aussi, où se croisent finalement deux histoires, celle de l'avant-garde, vraiment des procédés d'avant-garde, du collage en littérature, mais aussi évidemment dans les arts picturaux, et l'histoire de la science-fiction aussi, qui est l'histoire de la littérature populaire, où finalement il va un peu agglomérer les deux, parce que le principe même du cut-up consiste à aller piocher dans des matériaux totalement différents et à les agglomérer.
Dans l'introduction, tu annonces précisément que c'est un dialogue véritablement complexe puisqu'il va dans tous les sens, dans le sens que c'est à la fois donc, la différence, c'était la contamination mutuelle de l'œuvre de Burroughs et de la science-fiction. Tu travailles à la fois donc, cette appropriation, déconstruction, remontage, etc., etc., que fait Burroughs de certaines sources, on va y venir, notamment de la science-fiction pulp des années 20-30. Et de l'autre côté, cette opération, non seulement a une influence donc, sur la pratique de la science-fiction ultérieure, mais aussi finalement crée une sorte de territoire étrange, de dispositif, et tu emploies le terme très deleuzien, donc de SF Chine, pour signaler donc cette sorte de zone de turbulence. On va y aller donc par les approches successives telles que tu le présentes dans le livre. Tout d'abord, donc, tu t'intéresses et dans une lecture serrée des sources de l'imaginaire burroughsien, et tu as choisi quelques œuvres donc, que Burroughs lui-même a évoquées dans différents entretiens. Donc, ça, c'est la partie. Burroughs, lecteur de science-fiction. Alors, très curieusement, parce qu'on aurait pu imaginer toutes sortes d'autres influences, mais en se tenant donc à ce que Burroughs lui-même a dit, émerge donc un petit panthéon assez disparate pour les amateurs de science-fiction. D'un côté, la trilogie cosmique, The Space Trilogy, de C.S. Lewis, plus connue pour Narnia, pour son amitié avec Tolkien, un peu plus oublié dans le domaine du fandom de la science-fiction. Vénus et le Titan, en anglais Fury, de 1947, de Henry Kuttner. Three to Conquer, d'Eric Frank Russell, de 1956. Twilight World, de Paul Anderson, 1961. Et The Star Virus, de 1964, de Barrington Bailey. Et on voit que, peu à peu, on se rapproche plus de l'écriture de Burroughs elle-même, et justement un livre comme The Star Virus est déjà contemporain et entre déjà dans l'orbite de ce qu'on pourrait appeler l'univers Nova et l'univers Burroughs. Alors tout d'abord, Lewis, donc, qu'est-ce qui relie Burroughs et C.S. Lewis ?
Dans la trilogie cosmique, C.S. Lewis développe notamment, et c'est quelque chose dont Burroughs parle beaucoup en entretien, l'idée que la planète Terre, alors il y a toute une logique où chaque planète du système solaire a un Oyarsa qui est une espèce de divinité tutélaire qui veille sur la planète. Il est amené à communiquer avec ses Oyarsa. Un personnage est amené à communiquer avec ses Oyarsa au cours de différents voyages. Les Oyarsa de Mars et de Vénus lui confient que celui de la Terre est désormais silencieux et qu'ils ont en quelque sorte perdu le contact parce qu'il a muté. Il aurait muté en un être maléfique qui justement pousse toute la planète à son autodestruction et les humains à s'entretuer. Et c'est cette idée qu'il y a quelque chose d'interne à l'humanité qui divise l'humanité en deux entre une possible humanité finalement, si ce n'est parfaite, du moins bienveillante, et une espèce de divinité intégrée, en tout cas d'esprit du mal qui serait intégré dans l'humain. Ça, c'était quelque chose que William Burroughs avait beaucoup apprécié, l'idée de quelque chose qui a muté, qui est devenu tordu, hein, puisque chez C.S. Lewis, il l'appelle comme ça dans la traduction française, c'est le tordu, the bent one, qu'il a comparé lui-même à une espèce de figure aussi du mal, mais un mal bicéphale, ambigu, qui est Mr. Bradley, Mr. Martin, dans la trilogie Nova, qui est également une espèce d'organisme bicéphale fondamentalement intoxiqué à son propre système de contrôle et qui est également une sorte d'être maléfique qui domine l'humanité par des systèmes d'intoxication. Donc, il y a cette vision globale qui avait, en tout cas que Burroughs a déclaré avoir vraiment, il déclare avoir été interpellé et y avoir trouvé des parallèles avec son propre...
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on fait souvent le portrait de Lewis comme une sorte d'auteur chrétien apologétique. Et en fait, ce qui est assez singulier dans justement cette trilogie, c'est que c'est plutôt une réflexion sur le legs des gnostiques. Et il y a tout un imaginaire gnostique qui finalement, pour quelqu'un comme Burroughs, grand lecteur omnivore, etc., a pu rejoindre des préoccupations métaphysiques plus vastes qu'il a pu connaître par ailleurs par d'autres textes. Et ce serait curieux de voir si le gnosticisme arrive chez Burroughs par Lewis d'abord ou si c'est une confluence donc avec d'autres préoccupations, puisque le legs gnostique, c'est un peu la tradition souterraine, underground, de la spiritualité occidentale chrétienne, enfin sous le christianisme, disons, et qu'elle se retrouve par ailleurs dans plein d'auteurs que Burroughs connaît par ailleurs, comme William Blake, etc., etc. Donc c'est assez curieux de voir que effectivement c'est un peu la relecture du mythe gnostique en clé science-fictionnelle qui marque donc cette première confluence donc d'un classique de la SF et de Burroughs. Donc ensuite donc le Vénus et Titan de Kottner, qui est première partie d'une dilogie constituée donc publiée d'abord en deux volets dans le magazine Pulp Astounding, et tu vas parler justement plus tard du lien entre les nouvelles publiées dans les pulps et recomposées en roman par la suite par les auteurs quand les pulps disparaissent, et la pratique même du cut-up. Quel est le lien donc cette fois-ci entre cet ouvrage de Kottner et Burroughs?
C'est là encore plutôt un lien thématique que formel. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs choses qui les relient. La première, c'est sans doute l'idée d'une insurrection qui est racontée dans le roman de Kottner, puisque ça décrit un monde installé sur Vénus, un monde de castes avec des immortels et le peuple qui vit justement sous sa coupe. Et c'est l'histoire d'une insurrection. Donc ça, c'est thématiquement quelque chose qui est très récurrent aussi dans toute l'œuvre burroughsienne. La deuxième, c'est peut-être aussi la représentation de Vénus, qui est aussi quelque chose qui revient régulièrement chez William Burroughs. La représentation justement d'une Vénus sauvage, tropicale quasiment, avec des créatures incroyables et une terre à conquérir. Un espace à conquérir. La nature vénusienne est un espace hostile que les habitants essayent de domestiquer pour justement essayer de contrecarrer le pouvoir de la caste des immortels. Donc il y a vraiment et ces représentations de l'espace et les représentations politiques de l'insurrection, et puis l'utilisation que va en faire le héros insurgé, donc Sam Harker, dans le roman de Kottner, l'utilisation qu'il fait des médias, puisqu'il va utiliser les images pour aller dans le sens de son insurrection et essayer de mobiliser la population, et il crée notamment une espèce de deepfake, c'est-à-dire qu'il fait parler avec un grand réalisme, il crée des images du dirigeant de la caste des immortels pour arriver à ses fins et générer en fait la mobilisation autour de lui, autour de son projet insurrectionnel. Donc il y a plein de petites choses en fait dans ce roman qui thématiquement auront suscité l'intérêt de William Burroughs, la personnalité même du héros qui est très très ambigu, puisque c'est une sorte d'anti-héros extrêmement habité par une rage, une colère, des pulsions de destruction extrêmement importantes, et en même temps avec un projet insurrectionnel qui est à la fois guidé par des motifs très individuels, très personnels, et en même temps qui a aussi une portée collective, puisqu'il s'agit de renverser une caste dominante autoritaire.
Oui, c'est d'ailleurs une réécriture. Comme ce sera le cas chez Burroughs, c'est aussi une réécriture de tout l'imaginaire de l'Amérique, des pionniers, de la conquête de l'Ouest, de la destinée manifeste, ce qui est assez caractéristique des premières œuvres de science-fiction, si on pense à l'autre Burroughs, donc Edgar Rice Burroughs, avec son cycle martien de Barsoom, etc. Mais en fait, avec ces textes de Kottner qui sont écrits au cœur de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est assez singulier, c'est justement que le Far West devient un territoire essentiellement violent et sinon apocalyptique, du moins très millénariste. Il y a un côté très millénariste, comme ce sera le cas dans Les Garçons sauvages de Burroughs, mais aussi dans le cycle où Burroughs va réécrire le western américain. Donc on voit un peu cette thématique-là. On voit apparaître aussi un peu le thème même de ce qu'on appellera la délinquance juvénile au sortir même de la Seconde Guerre mondiale. Et comme tu dis aussi, avec le deepfake, ce qu'on voit chez Kottner, donc en 1943, c'est l'influence déjà du régime de la transformation médiatique du réel dans les totalitarismes. Donc, c'est assez intéressant de voir comment finalement c'est tout un imaginaire très vaste qui se met en place dans la science-fiction des pulps et comment un jeune lecteur, comme avait pu l'être William Burroughs, va au fond rester hanté par cet imaginaire. Avec donc Three to Conquer de Russell, on saute encore dans le temps, presque une décennie, donc on passe en 1955. Et là, on est dans la science-fiction paranoïaque, si on veut, typique de la guerre froide, typique aussi de l'imaginaire très parano de Burroughs, non?
Oui, complètement, puisqu'on est avec ce roman de Russell à l'intersection aussi de l'espionnage, du roman noir et de la science-fiction, avec cette histoire donc d'une invasion invisible de Vénusiens encore, qui est un enquêteur amateur qui a des dons de télépathie, va tenter de déjouer. Là, effectivement, il y a le motif de l'invasion d'une part, qui est quelque chose qu'on va retrouver chez William Burroughs, le caractère invisible de cette invasion, évidemment, donc un peu sur le effectivement, hein, comme tu le disais, cette logique qui est dans l'air du temps du body snatcher, très populaire à cette époque-là, mais aussi peut-être une façon de caractériser les personnages avec beaucoup d'humour noir, beaucoup de dialogues extrêmement ciselés qui sont dans une forme d'ironie que Burroughs a sans doute énormément appréciée et dans laquelle il se reconnaissait également.
Oui, et d'ailleurs l'influence du hard-boiled, du roman noir, qui va être un des genres que Burroughs va explorer tout d'abord, et notamment avec l'ouvrage écrit avec Kerouac, donc sorte de parodie de polar disjoncté. Effectivement, tu cites l'humour noir, tu cites une phrase, un échange assez rigolo, c'est le personnage de Harper est un personnage de télépathe et c'est sa capacité de lire les pensées qui le conduit à identifier des envahisseurs extraterrestres qui occupent des enveloppes humaines, comme dans le cas des profanateurs, donc que tu citais, l'autre grand roman parano des années 50 de Jack Finney, adapté bien sûr au cinéma avec le succès que l'on sait. Donc, j'ai établi un contact mental avec Jocelyn Whittingham et elle m'a rapidement insulté, alors je lui ai tiré dessus. « Vous considérez que c'est un motif adéquat pour un meurtre ?» demanda Jameson. « Au vu du nom, oui. Comment vous a-t-elle appelé, salaud de terrien ?» Donc là, voilà le genre de truc qui effectivement mélange savoureux de hard-boiled et de science-fiction. C'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans ces années-là, du fait que justement, ces deux genres hégémoniques dans la culture pop de l'époque. Et là aussi, on voit comment William Burroughs est le fruit de cette culture pop, puisque ce sont deux coordonnées qui vont rester très présentes dans toute l'œuvre de Burroughs. Et d'ailleurs, Harper est déjà un personnage clivé, comme ce sera le cas de pratiquement tous les personnages burroughsiens. Avec le Twilight World de Paul Anderson, nous sommes dans le registre donc apocalyptique qui revient malheureusement à la mode en ce moment puisque c'est une histoire de Troisième Guerre mondiale. Il y en a eu beaucoup évidemment à partir de la deuxième. Et là donc c'est plus cet imaginaire post-atomique qui marque Burroughs.
Oui, il y a effectivement cet univers post-atomique, donc sur une planète qui a été dévastée par la Troisième Guerre mondiale, par une guerre atomique, et qui a engendré des mutations chez les survivants, qui sont peu nombreux, des mutations qui entraînent, outre des malformations physiques aussi, des retards mentaux, etc., mais qui créent également, avec toujours cette idée que de la catastrophe naît autre chose, des mutants avec des pouvoirs exceptionnels, dont un qui est assez central. Donc, c'est un fix-up, il y a une forme de déconstruction entre les séquences, entre les, on pourrait appeler des chapitres, qui introduisent justement d'énormes ruptures, notamment temporelles, et des ellipses importantes. Ce qui aura aussi formellement, là je pense, beaucoup intéressé Burroughs, c'est le caractère discontinu de ce texte-là. Et sur le plan thématique aussi, l'idée de la mutation comme quelque chose qui pourrait être une solution aussi à la réappropriation par les humains de cette terre dévastée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment les deux aspects thématiques et formels, on les retrouve dans ce texte-là. Le fait même qu'il y ait des origines, mais c'est des choses, c'est des tout petits détails. Mais un des personnages principaux vient du Missouri, de Saint-Louis, comme William Burroughs. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser qu'il y a vu aussi. Enfin, que ça l'a fait au moins sourire, même si c'est totalement un hasard, évidemment.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, évidemment, Burroughs ne fait pas un travail d'érudit, c'est-à-dire que c'est pas un érudit de la science-fiction, c'est pas non plus quelqu'un qui cherche à entrer dans le champ de la production de la science-fiction, comme les gens de sa génération qui ont fait de la science-fiction et qui étaient en général avant tout des fans et qui, en tant que fans endurcis, type Asimov et autres, c'était des gens qui avaient une connaissance très encyclopédique de la science-fiction. Alors qu'avec William Burroughs, on a plus l'impression que c'est justement une approche un peu intuitive, guidée par des hasards, un peu les hasards objectifs chers aux surréalistes. Et donc cette idée de piocher dans un imaginaire collectif, vraiment au sens, non pas au sens jungien, mais au sens un imaginaire culturel qui était littéralement partout dans l'Amérique où il a grandi et où finalement il a pu connecter avec des grands thèmes de la science-fiction à travers des œuvres qui ne sont pas nécessairement les œuvres canoniques ou panthéonisées ou même les plus populaires. D'ailleurs, certains de ces textes n'ont même pas été traduits en France, ce qui prouve qu'ils n'ont pas ce statut canonique-là. Paul Anderson est connu pour plein d'autres livres plutôt que par celui-là, etc. C'est vraiment le mélange donc de l'ubiquité de cet imaginaire et le fait que Burroughs peut s'y brancher à travers certaines interfaces qui ont marqué son imaginaire. Et le fait qu'effectivement, ça peut être par des réseaux de sympathie comme Vénus, ça peut être le Missouri, ça peut être, enfin, c'est tout ce qui peut nous porter vers un texte finalement un peu pris au hasard. Et puis enfin, donc, c'est un ouvrage qui est peut-être plus directement relié, parce qu'il est aussi plus contemporain de sa pratique à ce que faisait Burroughs, c'est The Star Virus. Donc, le premier roman de Bailey qui donc évoque une bande d'orpailleurs spatiaux jouant leur vie dans des parties de poker atomique hallucinées. Et où il y a cette phrase donc qui est déjà très burroughsienne, les humains sont un cancer, un dangereux virus qui se propage à l'infini. Et phrase donc à laquelle Burroughs peut parfaitement souscrire.
Oui, avec Barrington Bailey, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une influence mutuelle hein, qui est revendiquée par les deux auteurs, puisque Burroughs va citer des fragments de Bailey dans la trilogie Nova. Bailey va écrire en utilisant le cut-up. Donc on est à la frontière de l'influence et du dialogue entre ces deux auteurs. Mais comme c'est The Star Virus est un tout petit peu antérieur en fait à la fin du premier opus de la trilogie Nova, je l'ai quand même considéré comme une source d'influence, d'autant qu'il y est cité. Et il y a cette idée effectivement que l'humanité est un virus. D'une part, ces personnages qui complètement intoxiqués à cette espèce de jeu et un artefact en plus qui aussi opère comme une forme de drogue sur celles et ceux qui la regardent, ceux en l'occurrence. Et puis un personnage central, le capitaine de cette expédition d'orpailleurs de l'espace, qui est lui-même intoxiqué. Donc en plus, il y a tout un réseau de références à l'intoxication à tous les niveaux dans ce roman-là, qui est très très proche de la logique que déploie Burroughs lui-même à déployer l'algèbre du besoin, la logique de l'intoxication à tous les niveaux de son histoire, à la fois comme drogue en tant que produit d'intoxication psychotrope, mais aussi comme un ensemble d'habitudes, de choses qui fascinent, qui empêchent le libre arbitre ou qui conditionnent, qu'on retrouve vraiment dans ce roman de Bailey.
Oui, l'imaginaire des pirates de l'espace, qui est d'ailleurs un des tropes, un des motifs du space opera, mais qui ici insiste beaucoup sur la condition elle-même de marginaux, donc très proche de la contre-culture des 60s d'ailleurs, des sortes de hippies de l'espace, et donc la piraterie qui va beaucoup revenir chez Burroughs. La réécriture, encore une fois, de la frontière, donc tu cites Bailey, curieux, la Terre de Vénus, un paradoxe, l'humanité emporterait toujours avec elle son héritage terrestre, à la telle colonisée au-delà du signe. les vieux mots, les vieilles pensées, les vieux motifs, et tu rapproches cela de ce que Burroughs appelle en 64, donc exactement à la même époque, les vieilles mythologies brisées, donc de l'Amérique. Donc là, effectivement, sorte de commence la confluence entre la SF et Burroughs dans les deux sens. Burroughs se met plus de manière plus évidente, disons, dans l'univers de SF avec Nova, et la SF commence à se faire écho avec des œuvres comme celle de Bailey, mais aussi évidemment avec le culte voué par la New Wave, Moorcock, Ballard, etc., à Burroughs. Donc, à partir de ces œuvres individuelles, tu dégages donc de cette influence, tu dégages quelques grands thèmes, donc les anti-héros, mutants, télépathes, toxicomanes, un peu ce qu'on a vu dans ces différentes œuvres, et qui vont être un peu combinés, justement, ces caractéristiques dans l'anti-héros burroughsien, non?
Oui, en effet. J'ai parlé de quelques œuvres, effectivement, qui reviennent régulièrement dans les propos de William Burroughs, mais il en cite d'autres aussi beaucoup plus célèbres, notamment Dune, de Herbert ou Arthur C. Clarke, etc. J'ai un peu choisi aussi peut-être des œuvres moins connues, mais dont l'imaginaire m'avait vraiment de manière très visible. Enfin, me semblait très visiblement lié à l'imaginaire burroughsien. Et effectivement, il y a ces anti-héros qui portent finalement toujours, d'une manière ou d'une autre, une forme de critique de l'impérialisme américain, ce que tu disais très justement à l'instant sur en parlant de la phrase de Bailey qui dans son roman explique finalement que les humains ne pouvaient pas s'empêcher de conquérir et de détruire et qui en fait cette logique impérialiste occidentale pas proprement américaine même si c'est quand même quelque chose qui revient très très souvent chez William Burroughs hein, mais cette logique impérialiste elle est systématiquement contrés, ou quasiment, par des personnages qui sont des anti-héros, au sens où ce sont des toxicomanes, ce sont des mutants, ce sont des marginaux, qui vont s'élever contre un pouvoir autoritaire ou une logique expansionniste à l'échelle interplanétaire, et qui vont être amenés à interroger ces questions-là. Par ailleurs, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, la question de la piraterie, repose sur cette idée d'appropriation finalement de biens, de vaisseaux, de transgression aussi de l'ordre établi et des règles de l'espace, en l'occurrence. Et puis la mutation, qui est la là, des personnages qui sont des hybrides, rejetés pour cette raison-là. Chez Paul Anderson, on les prend même pour des personnes handicapées mentales, alors qu'en fait, elles ont une façon différente de penser. Et cette façon différente de penser aussi va permettre à l'humanité tout entière de, peut-être, on ne le sait pas vraiment, mais je ne veux pas trop raconter l'histoire, de rendre de nouveau la Terre habitable, ou en tout cas de reconstruire une civilisation. Tous ces personnages, finalement, on va retrouver ça dans une ambiguïté profonde qu'il y a dans le personnage burroughsien, qui est que, d'une part, il est traversé, travaillé, par des contradictions internes, mais en plus, la narration déconstruite de Burroughs fait qu'on ne sait jamais tellement de quel côté il se trouve et que chaque personnage peut changer de camp, et donc du côté de l'insurrection ou du côté du système de contrôle. Et donc, son personnel romanesque regorge d'infiltrés, d'agents doubles, où il pousse encore plus loin cette ambiguïté, par justement des procédés narratifs.
Oui, et d'ailleurs, c'est une généalogie aussi intéressante de l'imaginaire de la contre-culture, puisque un des termes qui était employé justement pour se désigner avant celui de hippies et autres, c'était freaks. Donc les freaks au sens des phénomènes tels que dans le film éponyme de Todd Browning et dans les circuits de foire, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment finalement le sentiment d'aliénation profond de la Beat Generation, il rejoignait un autre sentiment d'aliénation qui était celui dans le fandom de la science-fiction et dans l'univers un peu de la science-fiction de cette sorte de culte du mutant qui s'était établi à travers quelques œuvres phares et où justement on voyait bien comment l'auteur de science-fiction s'identifiait beaucoup avec la figure de la mutation qui prend une connotation très paranoïaque avec la mutation radioactive de la bombe, etc. Et donc, c'est très curieux de voir ces généalogies un peu se tracer autour de ce dialogue complexe entre Burroughs et la SF, et comment des personnages de SF se retrouvent disséminés dans cette œuvre. Il en va de même pour l'habitat, donc pour l'imaginaire de Vénus, qui rejoint chez Burroughs un imaginaire tropical vécu, celui de l'Amérique latine, qui est évidemment très important dans le parcours initiatique et visionnaire de Burroughs. Et là, on voit bien d'ailleurs une sorte de transsubstantiation de l'imaginaire pulp en un imaginaire plus psychédélique et plus aussi donc autobiographique, cette confluence autour de Vénus de toutes sortes de motifs burroughsiens.
Oui, il y a vraiment une contamination des deux imaginaires, donc celui lié à l'expérience même de William Burroughs qui, dans les années, tout début des années 50, parcourt l'Amérique latine, notamment à la recherche du yagué, d'une expérience d'une drogue hallucinogène censée provoquer des visions, susciter un état de conscience supérieur. Et dans ces lectures, on retrouve une Vénus souvent très tropicale, reconnaissable d'ailleurs à ça dans les romans. C'est un peu l'imaginaire typique du végétation luxuriante, des créatures sauvages, notamment des insectes d'une taille phénoménale, etc., qu'on va retrouver d'ailleurs dans les textes de Burroughs lui-même. Un peu comme si ces lectures de jeunes adultes venaient rencontrer aussi son expérience, non seulement d'une expatriation, mais en plus d'une quête initiatique quasiment pour ce qui est de la recherche du yagué, avec cette confrontation à une nature sauvage, et en ce qui concerne le yagué, en tout cas ce qu'il en a raconté, d'un échec, puisqu'il a consommé du yagué, mais il n'a jamais eu la révélation qu'il attendait de cette drogue, en tout cas jamais l'image qu'il s'en faisait. Dans plusieurs de ses textes, d'ailleurs, dans les lettres du yagué qu'il envoie à Allen Ginsberg, c'est assez récurrent, et dans Queer, qui est publié beaucoup plus tard, mais qu'il écrit à cette époque-là, en tout cas à la suite de cette période-là, énormément, ça tourne autour de la déception constante de cette expérience. Et c'est vrai que les représentations de Vénus dans ces lectures reprennent ces représentations d'un paysage à la fois sauvage, hostile, à conquérir, mais enfin, en tout cas, objet d'une volonté de conquête, mais en même temps toujours tenu à une certaine distance.
Oui, se greffe aussi les souvenirs du Jardin des Supplices d'Octave Mirbeau. C'est la planète des supplices, et spécialement des supplices sexuels, où on voit aussi apparaître la sexualisation, voire la pansexualisation que fait Burroughs de beaucoup de ces motifs de la science-fiction, à un moment où la science-fiction aussi elle-même va progressivement traiter une sexualité qui avait été taboue dans les premières décennies, qui va devenir même assez omniprésente dans les années 70. Là aussi, il y a un truc intéressant entre l'aspect, donc on parle évidemment toujours avec Burroughs de la drogue et l'influence de la drogue sur la littérature, etc., etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'un imaginaire qu'on pourrait associer avec un imaginaire hallucinogène, etc., mais il part souvent de bases très intertextuelles, que ce soit sous le fait qu'effectivement, on peut imaginer que quelqu'un comme William Burroughs, en train de se droguer, son imaginaire préalable de lecteur enthousiaste de tout ça, on peut imaginer comment ça a pu alimenter des bons bad trips. Mais en même temps, le fait que l'écriture elle-même est traversée à la fois par l'influence donc des substances, mais aussi par le métissage, l'hybridation des imaginaires. Un autre aspect donc qui revient est celui de l'invasion, et justement invasion vénusienne que Burroughs va curieusement transférer vers le langage.
Oui, l'idée de l'invasion, de la symbiose en fait, de l'organisme étranger qui prend possession d'un corps, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'œuvre, j'allais dire dans la pensée de Burroughs, comme s'il avait un système philosophique à lui. Et c'est un petit peu comme ça que je l'aborde, et que je l'ai abordé aussi antérieurement à cette réflexion sur l'ASF. c'est l'idée que le langage est un virus qui aurait contaminé l'humanité et qui quelque chose, en fait, un langage parlerait à travers nous, à travers les humains. Et donc, c'est tout l'univers SF qui met en scène des symbiotes, des envahisseurs, des body snatchers, des systèmes viraux. C'est quelque chose d'extrêmement important dans l'univers romanesque et dans la pensée politique de William Burroughs, parce que tout son travail et tout le principe du cut-up est censé justement être un remède à cette intoxication par le langage. Donc, en coupant le langage, on se guérirait de cette intoxication, qui est une intoxication qu'il décrit par moments de manière extrêmement clinique, physique, mais qui est aussi la métaphore de l'intoxication aux médias, aux images, aux messages véhiculés par justement des médias dont l'importance va aller grandissante de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale à encore aujourd'hui de manière très évidente. Et tout ce qui va procéder dans le corpus que Lee Burroughs du virus, et des symbioses et de la prise de possession des corps, c'est quelque chose effectivement qui est vraiment central dans toute l'œuvre de William Burroughs.
Oui, et on voit à nouveau donc une hybridation assez fascinante entre une tradition moderniste, parce que c'est un des grands thèmes de la modernité, cette critique du langage, parole de la tribu, donc les mots de la tribu selon l'expression de Mallarmé, tout ce qui va de la crise du langage de Hofmannsthal jusqu'à Artaud, etc., etc. Enfin, donc toute cette grande thématique sur un langage aliénant dont la poésie doit nous libérer, etc., etc. Enfin, bon, cette thématique moderniste, elle prend chez Burroughs justement des allures très pulp en rejouant, donc en branchant, pour reprendre ton idée de la SF machine de Leuzienne, donc en branchant justement l'imaginaire parano de l'invasion, l'imaginaire parano du virus, et en l'associant à cette Prague crisis donc, dont parlait la fin de siècle et la modernité. Et tu cites justement le chapitre Operation Rewrite du ticket qui explosa. Donc l'invasion vénusienne était connue sous le nom de Opération Autre Moitié, c'est-à-dire une invasion parasitaire de la région sexuelle. L'autre moitié, c'est le mot. L'autre moitié est un organisme. Le mot est un organisme. La présence de l'autre moitié est un organisme distinct attaché à votre système nerveux. Et il y a donc une sorte de théorie du complot assez singulière qui se développe dans l'œuvre burroughsienne, que tu associes justement à Bailey aussi. Et c'est cette idée qu'il y aurait eu donc des sortes de mutations biologiques, donc le virus B23, de la même manière que on voyait dans Kuttner, dans Vénus et Titan, Sam Harker, comme le produit monstrueux d'un processus symbiotique utilisé comme une arme, un motif qui va beaucoup être repris par la suite par la science-fiction, mais qui donc chez Burroughs est présenté comme une sorte de, et là on rejoint encore un peu le gnosticisme, comme une sorte de réécriture de la création, non?
Oui, effectivement, Burroughs a dit, et ça a été beaucoup repris, Ballard l'a repris d'ailleurs, qu'il voulait fonder une nouvelle mythologie pour l'ère spatiale. Et finalement, là, on est dans un mythe de la création et de la chute en même temps, puisque l'origine de l'humanité, l'origine profonde de l'humanité, ce serait cette symbiose, en tout cas ce parasitage par le langage qui fait nous des humains et qui nous mène à notre perte dans la logique burroughsienne. Et cette volonté de d'écrire une nouvelle mythologie pour l'ère spatiale, c'est intéressant parce que, à mon avis, ça peut se lire dans deux sens. C'est aussi de le relire avec les outils de l'imaginaire spatial, donc avec les outils de l'imaginaire de la SF, de le relire après la Seconde Guerre mondiale, donc après Hiroshima, avec la possibilité aberrante d'une destruction de masse, et donc de créer une sorte de mythe de la création alternatif qui correspondrait au monde contemporain de William Burroughs et qui correspondrait à ce qui se passe justement dans cette deuxième moitié du XXe siècle, donc réécrire un mythe qui puisse raconter le contemporain de post-Seconde Guerre mondiale.
Tu écris Burroughs développe le motif viral comme élément fondateur de son imaginaire, mais aussi comme élément de lecture du monde. Il est en effet indissociable de sa conception des médias envahissant les esprits, de la prolifération des images et des slogans. Et tu vois justement comment le traitement de ce qu'on appellerait nous maintenant le deepfake, donc dans la manipulation médiatique, mais qui était un phénomène très ancien, et on connaît bien entendu les manipulations staliniennes des images où au fur et à mesure des purges, les personnages disparaissaient des photos jusqu'à ce que Staline se retrouve tout seul. Et donc, c'est aussi cet aspect-là qui transforme, donc qui se branche encore une fois, donc un autre branchement sur la crise du langage, etc., le langage comme virus et les médias comme parasitage, virus, invasion, etc. Un autre grand thème de la SF par la suite.
C'est aussi quelque chose qui va devenir, qui est vraiment le pivot de la trilogie Nova notamment, mais qui on pourrait aller le trouver dans d'autres textes de Burroughs, c'est l'idée d'une réalité truquée, d'une réalité fabriquée en studio et qu'on va retrouver aussi beaucoup dans la SF, notamment chez les auteurs les plus influencés par William Burroughs, l'idée qu'on aurait affaire à des simulations qui seraient impossibles à distinguer du réel. Et donc ça aussi, c'est vraiment issu de cette idée à la fois de la viralité et de la mutation et tout cet imaginaire des médias à partir de la fin des années 50.
C'est là où il est totalement contemporain de Philip K. Dick. Et il y a une anecdote assez savoureuse, tantôt on en parlera, entre les rapports de Dick et Burroughs. Donc effectivement, c'est toute une thématique d'époque que la SF développe en premier, mais qui se nourrit elle-même d'imaginaires préalables et qui surtout va peu à peu se populariser, donc jusqu'à l'explosion, si l'on veut, de l'imaginaire complotiste contemporain. Et ça va de pair avec cette transformation du simulacre, de la société du spectacle, etc., etc., dans l'Amérique de l'après-guerre. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est comment chez Burroughs, cette perception très aiguë de ces changements passe par un imaginaire très SF. Donc, et rappelons les médias Nova, donc les livres du conseil, le reality studio, le studio réalité, qui est un terme absolument baudrillardien avant la lettre. Donc, une sorte de méga complot médiatique qui n'est qu'une extension technologique d'un méga complot qui est à l'échelle de l'histoire de l'humanité elle-même, puisque ayant commencé avec le langage. Alors, il y a tout cet imaginaire des expérimentations gouvernementales, secrètes, que maintenant on trouve dans toutes les théories du complot et qui en fait sont l'extension maintenant virale de l'imaginaire de Burroughs, de Dick, etc., de cet imaginaire SF. Et puis, tu passes donc à l'analyse de la trilogie Nova, où tu t'intéresses justement à l'aspect linguistique. Donc, tu intitules le chapitre « Une linguistique fiction performative ». Et là, on voit donc ce qui relie Burroughs à d'autres préoccupations sur la fabrique du langage. Il y a d'un côté l'influence très intéressante sur toute la science-fiction de l'hypothèse Sapir-Whorf ou Whorf-Sapir. Donc, cette idée que le langage façonne notre pensée, notre vision du monde, littéralement.
Oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est dans la logique même du cut-up, parce que le principe fictionnel du cut-up, parce que le cut-up est à la fois un procédé d'écriture, mais aussi un motif dans la fiction, puisque c'est une arme dans la fiction pour lutter contre le studio réalité, justement. Et donc, l'idée même qu'on puisse, en agissant sur le langage, agir sur le réel est complètement dans la lignée de l'hypothèse Sapir-Whorf. Et l'idée d'une linguistique fiction performative, c'est que non seulement c'est donc la linguistique fiction, ce champ de la science-fiction qui met au centre de l'intrigue un fait linguistique, là devient performative dans la mesure où non seulement le cut-up est un motif dans la fiction, mais en plus il est le procédé qui préside à à l'écriture du texte, et il fait dialoguer les deux de manière constante, ce qui fait que si on se contente de lire la trilogie Nova, la guerre ne s'arrête jamais, et ce n'est qu'une fois finalement qu'on passe au niveau du texte, c'est-à-dire au niveau du texte fragmenté, et qu'on considère que tous ces discours du reality studio, en fait, on les voit déjà se fragmenter sous nos yeux, qu'on arrive à un texte agissant, qui en plus prend à partie très régulièrement le lecteur. Alors, il prend à partie des personnages, mais de manière directe, le lecteur peut tout à fait en être le destinataire direct, en disant, il faut couper les lignes, il faut couper les lignes de diffusion des médias, il faut couper les images, il faut couper les mots. Et donc, d'une linguistique fiction qu'on pourrait, pour reprendre l'opposition que faisait Austin entre les fonctions performatives et les fonctions constatatives, on arriverait là à une linguistique fiction qui, en plus de mettre le fait linguistique au centre de l'intrigue, puisque tout est question de message et de langage dans la trilogie Nova, on le fait agir au niveau même du texte, dans le texte lui-même, et donc dans son dialogue avec le lecteur, ce qui fait que ce roman n'est pas qu'un roman, n'est pas qu'une trilogie de SF, c'est aussi une sorte de manuel de guérilla qui nous invite, nous lecteurs, à nous emparer de ce type de procédé et à le mettre en pratique dans le quotidien.
Oui, la linguistique fiction, donc un terme employé pour désigner donc ces œuvres de science-fiction qui mettent au cœur de leur intrigue la langue elle-même, crée une autre généalogie parallèle à celle que tu évoquais des sources revendiquées par Burroughs. Il y a notamment les langages de Poe, de Jack Vance, de 57, dont tu cites un extrait qui illustre littéralement l'hypothèse donc linguistique de Sapir et Whorf. Donc, je cite, aucune langue n'est neutre, toutes contribuent à donner une impulsion à l'esprit des masses, certaines avec plus de vigueur que d'autres. Si nous allons plus loin, nous remarquons que tout idiome induit dans l'esprit des masses un certain point de vue sur le monde. Quelle est la véritable image du monde? Existe-t-il un langage qui l'exprime? Premièrement, nous n'avons aucune raison de croire que la véritable image du monde, si tant est qu'elle existe, puisse être un outil très utile ou efficace. Deuxièmement, aucun standard ne nous permet de la définir. La vérité est contenue dans l'opinion préconçue de celui qui cherche à la définir. Alors là aussi, est-ce que Burroughs en est venu à l'hypothèse Worf-Sapir à travers Vance? Est-ce que il a reconnu l'hypothèse dans Vance? Mais ce qu'on voit, c'est comment des problématiques qui a priori semblent relever de la culture académique ont pu se retrouver, se sont retrouvés dans la culture pop à travers justement l'intérêt qu'a toujours eu la science-fiction, non seulement pour les sciences dites exactes, mais pour les sciences humaines aussi. Tu cites aussi évidemment d'autres grands classiques de la linguistique fiction comme Babel 17 de Delany, 2,66, donc déjà dans l'orbite de la SF contemporaine de l'écriture de Burroughs, et aussi chez Ian Watson, je cite, donc œuvre traversée par une question qui irrigue toute l'œuvre burroughsienne, la possibilité d'agir sur le réel par le langage, moins comme une incantation magique, ce qui était le cas en passant des romantiques, donc le culte romantique de la poésie comme parole qui réenchanterait le monde, parole magique, etc. Donc moins comme une incantation magique que comme une machine qui libère le sens au sens de signification, mais aussi de direction, plus de sens unique, mais un accès à la multiplicité du sens. Et on rejoint là aussi un autre vecteur très intéressant, assez hétérodoxe et finalement moins reconnu dans la linguistique stricto sensu que curieusement, dans la SF, c'est la sémantique générale, donc de Alfred Korzybski, si je ne me trompe dans la prononciation. Et là, c'est aussi quelque chose d'assez curieux. C'est Van Vogt, donc dans la trilogie du Nonain, qui a intronisé la pensée très hétérodoxe de l'auteur de General Semantics, donc livre de 1933, et qui en a fait une sorte de trope de la science-fiction, alors que la sémantique générale, en général, a peu allumé les linguistes de profession, disons.
Oui, c'est une théorie, effectivement, qui chez les scientifiques, enfin, dans le monde académique, très controversée, qui n'a pas eu un succès et une postérité énorme, mais qui a eu énorme, enfin, beaucoup plus, finalement, dans le domaine de la fiction, sur toutes ces questions, d'ailleurs, de linguistique fiction. Je cite rapidement l'excellent essai de Comment parler à un alien de Frédéric Landragent, qui se penche là-dessus et qui explore de manière beaucoup plus vaste que les quelques pages que j'y consacre les questions de langue dans la SF, et qui est vraiment un essai exceptionnel. Oui, sur Korzybski, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que bon, Korzybski, ça va plus loin que le simple fait linguistique, c'est tout ce qui fonde la logique occidentale, ce principe hérité d'Aristote de non-contradiction. Donc A doit être égal à A, A doit être différent de Nana, et A ne peut pas être égal à Nana, qui va intéresser Korzybski, puisqu'il va affirmer que l'identité n'existe pas. L'identité dans un monde en perpétuelle mutation, dans le réel, n'existe pas. Et Korzybski va plus loin en disant que c'est même cette logique aristotélicienne qui cause tous les problèmes de l'Occident du XXe siècle. Ce que reprendra à son compte William Burroughs, justement, puisqu'il parle énormément de Korzybski. Au milieu des années 70, il enseigne à New York, il enseigne l'écriture à New York et il impose à ses étudiants de lire Korzybski. Pour lui, c'est le seul moyen de créer réellement, justement, sur cette idée qu'il faut se départir de la logique aristotélicienne de l'identité pour arriver vraiment à la multiplicité du réel et donc à un véritable contact avec le réel qui ne soit plus médiatisé, en quelque sorte, par ce prisme logique. Ça aura évidemment aussi un vaste succès dans la SF en général, pas que chez William Burroughs.
Oui, d'ailleurs, livre dont Einstein dira That's a crazy book. Et je pense que c'est la plus grande réclame. Si jamais il y a une réédition, je pense que c'est le truc qu'il faut mettre en haut, comme en gros titre,
En bandeau.
comme fond et un bandeau, exact. Donc, oui, œuvre qui, encore une fois, part du décalage radical entre la vie telle qu'elle est et ce que nous construisons à la fois avec le langage, la logique, etc., etc. Et d'ailleurs, le titre choisi pour la traduction d'une série d'essais en français, c'est une de ses phrases les plus célèbres. Une carte n'est pas le territoire, donc prolégomène au système non aristotélicien et à la sémantique générale. Un autre lien très curieux, très représentatif de cette époque étrange de la science-fiction dans les années 50, entre les années 40 et les années 60, disons, c'est le lien avec Ron Hubbard, donc cet écrivain de science-fiction qui est devenu le gourou d'une nouvelle secte, sorte de religion, la scientologie, évidemment. Donc, c'est très curieux qu'il y a un petit passage donc, où Burroughs s'intéresse à la scientologie à travers la sémantique générale, justement. Donc, un truc assez. On entre un peu dans le territoire très bizarre de ces personnages.
Hubbard crée la Dianétique avant de fonder la scientologie comme église. La Dianétique est un système de déconditionnement qui s'inspire justement des théories de Korzybski. Et c'est vrai que Burroughs, découvrant ça, il y trouve une sorte d'application des théories de Korzybski à un déconditionnement de l'esprit qu'il cherche lui-même, parce qu'avec justement toute cette idée que nous sommes contaminés par le langage, qu'il nous empêche de penser, qu'il nous empêche d'accéder réellement et à nous-mêmes au monde et au réel, les techniques de déconditionnement vont l'intéresser. Il prend vite ses distances avec quand il constate le caractère sectaire et le culte de la personnalité qui est autour de Ron Hubbard dans la scientologie. Mais le principe même, effectivement, découle de Korzybski.
Oui, et ce qui est assez, là aussi, ce qui est intéressant comme symptôme de l'époque, c'est le passage de la fiction, de science-fiction, à un régime de croyance chez Hubbard. Et au fond, ce sera une sorte de tentation qu'on retrouve chez Philip K. Dick avec le gnosticisme, une sorte de. Une problématique, ce passage de l'imaginaire de la science-fiction comme fiction à une sorte de ce que les anthropologues appellent l'ostension, donc de cet imaginaire-là dans d'autres régimes discursifs. Par ailleurs, Korsipski, comme tu le cites, utilise une sorte de rapprochement avec ce qu'on pourrait appeler une sorte de virus quand il écrit justement dans Science and Sanity, l'identification apparaît également comme quelque chose de contagieux car elle est transmise directement ou indirectement des parents et des enseignants à l'enfant par le mécanisme et la structure du langage, par des habitudes de pensée établies et héritées, par des règles d'orientation de vie, etc. etc. Et Burroughs lui-même dira plus tard donc, je pense que la construction aristotélicienne est l'une des grandes entraves de la civilisation occidentale. Les catopes sont un mouvement qui vise à briser ce carcan. Et c'est là l'autre aspect, disons, dans ton analyse, qui rejoint évidemment ta préoccupation dans ta thèse, c'est l'utilisation du catope pris dans cette logique-là, au fond, et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'on a beaucoup fait de différentes généalogies du catope, parce que bon, il y a évidemment le collage, etc., etc., mais on voit bien que ici, c'est l'arrimage, ou encore une fois le branchement, pour rester mécanique et deleuzien, c'est le branchement entre le geste d'avant-garde du collage dans une problématique tout à fait différente, qui est cette problématique de très paranoïaque, du virus, l'invasion et la résistance et la désarticulation, le débranchement de la machine du langage, non ? Du devenir machine.
Ce branchement-là entre l'avant-garde et la paranoïa issue de la SF, ou en tout cas les logiques du complot, de la contamination, etc. C'est vraiment ce qui permet, je crois, chez William Burroughs, d'arriver à une véritable pensée politique issue des deux, justement, des deux éléments qui irriguent son imaginaire, l'avant-garde et la SF, c'est-à-dire penser une pratique collective de l'imaginaire qui, à travers un procédé très simple qu'est le collage, qui est vraiment à la portée de tout le monde, puisse à la fois permettre de créer des mondes, en quelque sorte, en tout cas de créer des textes, de s'approprier un matériau textuel, un ensemble de messages devenus, ou en tout cas, d'après Burroughs, ayant toujours été envahissant, aliénant, et de connecter tout ça avec, en plus, une espèce de corpus populaire d'histoire de SF. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre d'une pratique politique populaire, collective, qui me semble être peut-être le vrai produit de ce branchement-là. Enfin, il n'y en a pas, évidemment pas qu'un, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, ce branchement de l'avant-garde et de la SF va permettre ça. En tout cas, c'est ce que Burroughs poursuit comme idée.
Oui, le lien est d'ailleurs tout à fait à repenser, le lien entre avant-garde et science-fiction, mais aussi, pas seulement les avant-gardes artistiques et littéraires, mais tout le lien entre les sciences humaines et la science-fiction. Tu cites justement le classique de Morgan Foster, La machine s'arrête, donc texte de 1909, où il y a une préfiguration de ce devenir machine absolue du monde, tel que qui sera théorisé plus tard par Günther Anders, Jacques Ellul, Lewis Mumford, etc., etc. Donc, on a beaucoup parlé de à quel point la science-fiction préfigure le monde des techniques, mais on s'est moins intéressé, malheureusement, à tout ce que la science-fiction préfigure comme théorie, en fait. Et donc, pas juste est-ce que la science-fiction a prévu les voitures qui volent, etc., etc., mais justement, est-ce que la science-fiction n'a pas prévu, enfin, on n'a pas anticipé la déconstruction, etc., etc. Enfin, bon, beaucoup de théories que, a priori, on n'associerait pas à la science-fiction. Et donc, c'est aussi un aspect très intéressant de ton travail à travers Burroughs, comment cette interaction se crée. Et donc, ce qui est très intéressant avec ton analyse donc, du cut-up à travers l'interaction avec la linguistique fiction, c'est justement que ça déplace les coordonnées du débat et ça ouvre une autre dimension qui va au-delà du geste tel qu'il a tellement été glosé, repris, etc., etc. Et puis ensuite, tu t'intéresses à l'autre versant. Donc, nous avons vu la question des sources, la question de la réappropriation, et après, tu t'intéresses donc à la question de la postérité SF des machines Burroughsiennes. Et je cite, « Si la SF Burroughsienne se réalise, c'est que si, ce qu'il se produit dans son texte advient réellement, car le Kotop réalise quelque chose qui est de l'ordre d'une lutte en acte contre la dystopie que l'histoire de la trilogie Nova donne à penser. Et il s'agit d'ouvrir les perspectives d'une utopie, d'une entreprise collective. Les auteurs et créateurs influencés par Burroughs vont poursuivre cette ouverture du champ des possibles de William Gibson à Neal Stephenson, de James Graham Ballard à Kathy Acker. La lutte contre le studio réalité s'intensifie à mesure que les machines informationnelles accroissent leur domination. » Et on peut parler donc avec Mick Riamos de la Burroughs Generation dans les années 70. Alors, on en a beaucoup parlé pour les rapports avec le punk, le noise, etc., le rapport avec la poésie, évidemment, l'avant-garde, mais aussi donc les deux grands versants de l'influence burroughsienne dans la science-fiction, la New Wave et le cyberpunk. Et dans la New Wave, tout d'abord, le lien donc avec Philip K. Dick, avec ce truc assez, cette expérience assez intéressante où Dick se reconnaît en mars 1978 dans le ticket qui explosa de Burroughs.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'était, pour en avoir discuté avec pas mal de gens, notamment de grands amateurs de Philip K. Dick et de William Burroughs, il y a une sorte de familiarité intuitive dans leur vision des choses. Je cite un extrait où Philip K. Dick écrit donc dans son journal que, donc je le cite, hein, « Dans le ticket qui explosa, Burroughs dit des parasites du complot Nova que lorsqu'ils passent d'un hôte humain à un autre, ils se trahissent par la continuité de leurs habitudes. » Et c'était exactement le cas de Thomas. Donc Thomas était l'autre personnalité que donc, Philip K. Dick, dans une grande phase psychotique, a vécu la vie. Donc un chrétien persécuté au 1er siècle après Jésus-Christ, qui était une sorte de dédoublement de personnalité. Et donc Dick écrit « Je me suis subjectivement senti comme une femelle, un utérus dans lequel était déposé quelque chose comme un œuf de coucou. Cela signifie-t-il que Burroughs décrit intentionnellement ou non quelque chose de vrai ?» Donc en fait, Philip K. Dick a vu dans le premier, dans le, donc le deuxième volume de la trilogie Nova, une sorte d'explication de ce qu'il aurait vraiment vécu dans cette phase-là, printemps 74, lorsqu'il vit une sorte de double vie où il a l'impression d'être coupé en deux et de vivre deux vies parallèles, l'une dans le présent et l'autre au 1er siècle après Jésus. C'est vraiment une trouvaille étonnante parce que la manière déjà dont Philip K. Dick en parle, il dit justement, quelques mois plus tard, toujours dans son journal, il écrit qu'après avoir lu Burroughs, il a écrit Ubik. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que justement, cette espèce de familiarité intuitive se trouve plus ou moins justifiée dans ses journaux. Enfin, en tout cas, expliquée d'une certaine manière.
Ouais, et je me suis dit en lisant ça, qui est quand même un moment totalement savoureux où deux personnages complètement spéciaux, disons, se lisent. Mais je me suis dit, s'il y a un truc encore plus bizarre que lire William Burroughs, c'est imaginer Philip K. Dick en train de lire William Burroughs. Parce que l'explosion mentale, le mindfuck colossal que ça a pu représenter de cette sorte de mise en abîme. Et c'est d'ailleurs, ce serait un projet rigolo de cut-up, d'imaginer William Burroughs, enfin Dick en train de lire Burroughs, l'interférence entre ces deux imaginaires. Un autre passage tout à fait passionnant de ce pont, c'est le chassé-croisé véritablement complexe autour de Blade Runner.
Oui, alors parce que effectivement, donc le film de Ridley Scott est inspiré d'une nouvelle d'Alan North qui s'appelle The Blade Runners, qui est lui dont le titre et le titre Blade Runner a été repris d'un projet de scénario de William Burroughs qui n'a jamais vu le jour et qui donc le tout étant une adaptation de K. Dick. Donc on a une espèce de triangulation constante entre les imaginaires de Dick et ceux de Burroughs qui arrive en plus dans l'imaginaire populaire grand public, hein, puisque le film de Ridley Scott a quand même été un succès colossal et reste un chef-d'œuvre cinématographique quand même assez indiscutable, où un titre imaginé par une adaptation de Philip K. Dick se retrouve nommé d'un texte de Burroughs qui était d'inspiration d'une nouvelle donc de North. On s'y perd un peu, mais c'est assez amusant. Et puis c'est le scénariste qui a avoué après, il avait l'air un peu gêné de dire qu'en fait il avait piqué le titre à un texte qu'il avait lu de William Burroughs quand Ridley Scott a dit ah oui génial, Blade Runner c'est une très bonne idée. Et donc c'est son assistant, je crois, qui lui a dit qu'il l'avait emprunté à William Burroughs.
Oui, et ce qui est assez singulier, tout est singulier dans l'histoire, puisque effectivement, le texte original d'Alan North, de Blade Runners de 1974, raconte l'histoire de contrebandiers de produits médicaux, donc qui doivent sauver les plus pauvres d'une épidémie, encore un thème qui est revenu malheureusement d'actualité dans nos vies. Et on voit bien qu'est-ce qui a pu intéresser Burroughs, justement, cette sorte de dystopie virale, d'apocalypse pandémique avec une police de la santé et des médecins clandestins qui sont comme des sortes de dealers, etc. Alors, on peut lire le script de Burroughs. J'invite nos auditeurs, auditrices à le faire. C'est quand même assez intéressant. Et ce serait très intéressant de voir le lien, d'étudier le lien avec le roman de North, comment il y a une sorte de transformation, de réappropriation par Burroughs. C'est un cas intéressant de réécriture, mais d'adaptation, dans la transmédiatisation, etc., etc. Donc, c'est un très beau sujet. En français, d'ailleurs, le titre a été traduit par Le porte-lame, ce qui finalement est un peu la traduction beaucoup moins poétique de Blade Runner. Donc, ça aurait été un peu une cata si le film en français de Ridley Scott se serait appelé Porte-lame. Mais bref, une chose assez singulière que juste par le lien du terme lui-même, l'œuvre de Burroughs se soit branchée sur l'œuvre de Dick. Alors, par ailleurs, donc, outre ce lien très, très, très sensible, ce sont deux approches très différentes, mais d'imaginaire, qui ont énormément de liens. Évidemment, les simulacres, paranoïa, le virus, le fait que Dick se Burroughsise dans l'exégèse, etc., etc., où là, on entre vraiment dans une sorte de truc où ces choses-là sont vraiment existentielles et elles sont appropriées par l'écriture du moi, etc., etc. Et donc, outre ce lien très fort, il y a donc le fait que la New Wave, la génération de la New Wave, se revendique de Burroughs. C'est une manière... Je pense qu'il y a différentes choses. Tu évoques certains aspects de ce branchement. Je pense qu'il y a d'un côté le fait que William Burroughs permettait aux gens de la New Wave de se distinguer, de se dégager du fandom habituel, classique de la science-fiction en revendiquant quelqu'un qui était plutôt du côté des avant-gardes et du côté de la haute littérature, entre guillemets, mais dans la marginalité, de la contre-culture surtout. Donc, c'était une manière à la fois de légitimer un nouveau type de science-fiction en la couplant avec un des plus prestigieux écrivains, mais à la fois, c'était un des plus prestigieux, mais un des plus honnis de par l'aspect outsider, queer, toxicomane, etc., etc. Donc, à la fois, donc, revendiquer cette marginalisation, revendiquer quand même toute la filiation avec les grandes figures de l'avant-garde versus le pulp et aussi, je pense, une vraie fascination, c'est-à-dire que pas seulement une posture ou un geste, si on veut, bourdieusien de distinction dans le champ littéraire, etc., mais aussi, je pense, une fascination, une sidération qu'on voit beaucoup chez Ballard, par exemple. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que Ballard lui-même aura cet effet sur d'autres lecteurs, donc de sidération et de fascination, et eux, ils l'ont eu avec Burroughs. Donc, tu cites des passages où justement Moorcock présente Burroughs comme le maître à penser d'une nouvelle science-fiction, donc beaucoup plus éclatée et libérée au sens des carcans du pulp. Tu cites aussi un texte assez sympathique de Philip Joseph Farmer, où il fait, lui, un branchement assez curieux entre les deux Burroughs, c'est-à-dire entre Edgar Rice Burroughs, l'auteur de Tarzan, Pellucidar, Barsoon, etc., et William. Et c'est un texte assez singulier de Jungle Rat Kid on the Nod. Donc, en français, c'est cet enfoiré de Tarzan dans les vapes, et où il y a Tarzan est réécrit à la lumière de Burroughs. D'ailleurs, c'est aussi intéressant, ça rejoint une de mes recherches que j'avais fait donc, sur l'amour singe, les représentations justement très provocatrices de cet aspect qui est un peu latent chez Tarzan dans le texte d'origine et qui ici devient complètement dingue et très provocateur. Et puis le plus Burroughsien sans doute, c'est Ballard lui-même, mais plus spécifiquement la foire aux atrocités de Atrocity Exhibition.
Oui, ce texte-là est vraiment, placé pragmatiquement sous la tutelle de William Burroughs dans sa réédition de 91, puisque Burroughs le préface, qui reprend et en même temps dépasse la logique de Burroughs à tous les plans, c'est-à-dire sur le plan des procédés d'écriture. On va retrouver du montage, mais dans une logique très cinématographique, le discours sur l'aliénation par les images, avec tout un jeu de simulation, de simulacre, si on reprend pour plagier Baudrillard, qui va vraiment s'inscrire à la fois dans la continuité de William Burroughs sur le plan de la réflexion sur le statut des images, sur le statut du réel et sur les procédés d'écriture, et qui en même temps va complètement aussi donner une forme d'orientation à cette New Wave SF, puisqu'il s'agit vraiment de réfléchir sur la nature, non pas seulement des technologies, mais de la production, de l'effet des technologies, sur nos productions imaginaires, sur notre façon de nous situer dans le réel. Et ce qui est intéressant justement avec cette New Wave SF, c'est que lorsque Moorcock reprend New Worlds et fait pour ce numéro inaugural, donc il est au moment où il reprend la revue, qui est complètement un hommage à William Burroughs. On n'est qu'en 64, et à cette époque-là, Burroughs est d'abord pas très très connu, et quand il est connu, extrêmement décrié par la critique. Donc il va y avoir aussi, ça va être aussi une façon de le mettre en avant. C'est en se plaçant sous sa forme de tutelle intellectuelle, ça va vraiment donner aussi de la visibilité, je pense, à cet auteur-là, à Burroughs lui-même, auprès d'un public qui ne le connaît pas nécessairement. Et donc, Ballard va aussi prolonger cette œuvre-là avec la foire aux atrocités, mais aussi tout un ensemble de textes où la question des images, de la simulation, d'un studio réalité, finalement, même s'il n'est pas nommé comme ça, va en faire une sorte de science-fiction ou une sorte de fiction spéculative, puisque c'était le terme que Ballard préférait, qui devient extrêmement philosophique et qui se place aussi dans la réflexion philosophique sur le langage, sur le statut des images de Burroughs.
Oui, dans le sillage de cette new wave de la science-fiction, tu évoques aussi un aspect très intéressant qui est le paradoxe de Cronenberg, puisque on sait que Cronenberg adapte The Naked Lunch, mais en grande partie, ironiquement ou paradoxalement, ce n'est pas le film de Cronenberg le plus Burroughsien. Et dans une certaine mesure, tu le dis, confronté à l'œuvre elle-même, Cronenberg l'évite en se réfugiant dans le biographique. Si certains thèmes favoris de l'auteur, hallucination, hybride mécanique, organique, agent secret, y sont abordés, ce n'est étonnamment pas le plus Burroughsien des films donc de Cronenberg. Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est l'ombre Burroughsienne qui justement se mélange avec Ballard et avec Dick dans Cronenberg à partir de Stereo, Crimes of the Future, Shivers, Rabid et surtout Videodrome, puisque avec Videodrome, on est vraiment à la croisée justement de ce studio réalité et on est un peu à la croisée de ces trois figures tutélaires où l'image devient littéralement un virus, une tumeur et puis bien sûr, un peu plus tard, Existence. Alors, c'est là aussi un aspect très intéressant de voir comment les influences, le jeu des influences sont complexes. Et donc, on comprend bien pourquoi il en vient à adapter quand même The Naked Lunch. Mais ironiquement, donc, on voit que l'aspect biopic, etc., qui est très intéressant par ailleurs, hein, et dans un autre contexte, dans un autre regard sur le film, c'est quand même une des manières de s'attaquer à cette œuvre parmi les multiples possibilités d'adaptation qu'elle avait, et aussi de non-adaptation ou de non-adaptabilité cinématographique, mais de voir le parcours de l'œuvre. Et puis l'autre grand versant, c'est évidemment le cyberpunk, donc, qui, dans un certain sens, curieusement, littéralise Burroughs. C'est-à-dire, si la New Wave est très embarquée dans l'aspect expérimental de Burroughs, etc., etc., le cyberpunk, lui, est à la fois plus marqué par le fait que le studio réalité est devenu une réalité. La séduction est un peu différente, je pense. Ce qui attire Gibson vers Burroughs, c'est aussi déjà une autre génération, donc c'est déjà un passage qui est forcément un peu décalé. La facture de neuromancien est une facture plus classique. Il y a un retour au hard-boiled, il y a un retour à justement la SF noire, le techno-noir des années 50. Donc, c'est moins la revendication d'un geste comme le cut-up que l'influence donc, de ce que tu appelles les machines molles burroughsiennes, le mécanique qui détermine le biologique, l'inanimé qui s'insère au cœur de la vie elle-même, la créature prenant le pas sur la création. Et c'est cet imaginaire-là, via Gibson, qui va marquer évidemment la trilogie Matrix des Wachowski.
Oui, c'est vrai qu'on arrive à quelque chose là de peut-être d'une lecture plus littérale de l'autonomisation des machines, mais en même temps aussi la création on y retrouve quand même des personnages qui découlent, en tout cas qui ont une sorte de familiarité avec les personnages burroughsiens, un petit peu comme ce dont on parlait tout à l'heure, des lectures que Burroughs a, qui auraient peut-être, et qui ont très certainement influencé Burroughs lui-même. Ce que je trouve intéressant dans cette double généalogie, finalement, même si c'est vrai que le cyberpunk, on est 20 ans après la trilogie Nova, en termes aussi de prolifération technologique, les années 80 arrivent et donc le technocapitalisme s'installe, on sort finalement de la réflexion philosophique sur le statut du réel, quelque chose des années 70, hein, qu'on va retrouver d'ailleurs en sciences humaines avec l'école de Palo Alto, par exemple, le constructivisme, etc. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus minéral, et du coup aussi dans une narration qui reprend un peu les cadres du polar, c'est-à-dire, et du hard-boiled, d'investiguer cet univers très métallique et cette domination des machines, avec ce paradoxe de ces machines devenues invisibles que sont les intelligences artificielles et qui flirtent avec un statut qui, plutôt dans la SF, était une interrogation qui se portait sur la nature des l'humanité possible des robots ou autre chose, et donc le cyberpunk est un prolongement, sauf que là tout se passe dans des univers parallèles, métavers, matrices qui permettent une totale sortie du corps et sortie du réel matériel, de la matérialité du réel, ce qui est représenté d'ailleurs dans Neuromancien en termes d'environnement et d'espace. C'est vraiment des mégalopoles à un point technologique extrêmement développé, mais en même temps dans un état de pauvreté qui est assez incroyable, donc il y a quand même un versant politique très très fort aussi, et une forme de pessimisme chez Gibson en particulier, qui est une sorte de prolongement années 80 de certains aspects de ce que Burroughs imagine sur le contrôle, sur le statut du réel, etc.
Oui, puis passer par le filtre justement de Baudrillard, etc. Et par ailleurs, tu cites aussi donc un autre auteur assez inclassable, moins connu en France. D'ailleurs, le livre que tu évoques, je ne sais plus. Oui, je pense qu'il a été traduit, Empire of the Senseless de 1988 de Kathy Acker. Alors Kathy Acker, on l'associe beaucoup avec le punk, comme d'ailleurs rare représentante de ce que serait une littérature punk. Elle participe à la Nova Convention de 78, qui a donné lieu à un album dont vous pouvez voir quelques extraits sur YouTube. Donc, dans Empire of the Senseless, on a quelque chose qui est un petit peu aux antipodes de l'aspect mainstream de Matrix, si l'on veut, qui s'ancre plus dans la radicalité de Burroughs, dans la polysexualité, dans la version post-apocalyptique, les drogues, etc., etc. Donc, c'est une autre filiation qui se crée là. On reste un petit peu dans le territoire de l'avant-garde, aussi avec des éléments de science-fiction. Et donc, c'est une filiation très riche, puisque, comme tu le signales, il y a des aspects de neuromancien. Tu dis, tu écris tout en intégrant l'imaginaire burroughsien mêlé à celui du Marquis de Sade et de Jean Genet, Kathy Acker s'approprie des pans entiers de neuromancien. Et c'est intéressant, c'est à nouveau une sorte de triangle qui se crée entre Burroughs, neuromancien, Kathy Acker, et puis un autre triangle avec neuromancien, Matrix et Kathy Acker. Donc c'est assez singulier de voir ces circulations. Et donc très SF Machine, justement, la sorte de virtualité des branchements, mais de cette SF Machine. Par ailleurs, donc, tu vas évoquer beaucoup d'autres aspects dans d'autres chapitres. Donc, tu vas t'intéresser de manière plus générale donc, dans l'œuvre de Burroughs et ses influences, etc., à la viralité, la simulation, le contrôle. Donc, des aspects que nous avons déjà évoqués, la question du technocapitalisme, la surveillance, l'hypercontrôle. Là aussi, quelque chose où la littérature et la SF anticipent la théorie, puisque Deleuze théorise les sociétés de contrôle bien plus tard que Burroughs et la SF représentée, explorée, etc., etc. Et puis un dernier chapitre qui est consacré à la SF comme praxis politique de la dystopie technologique aux utopies libertaires. Donc, la question du pharmacon, la question des utopies pirates et de l'éthique punk, justement, les topographies du désir, rien n'est vrai, tout est permis, donc un des slogans qui traverse l'œuvre burroughsienne, réécriture de Dostoïevski à la lumière, justement, de Debord et autres. Et puis ce que tu appelles les mythologies silencieuses. Donc c'est vraiment un panorama très complet que tu traces de l'œuvre burroughsienne à travers donc cet angle très intéressant que tu as eu tout à fait raison de mettre de l'avant, qui est la question de la science-fiction au sens large, de la fiction spéculative, etc.
C'est extrêmement riche de toute façon quand on commence à tirer des généalogies, enfin à essayer de faire des généalogies, c'est forcément incomplet. Finalement, l'impression qui m'en reste, c'est que il resterait effectivement entre William Burroughs et Philip K. Dick, ou même des auteurs peu connus que Burroughs a lui-même lu à explorer vraiment. Donc, ça laisse des perspectives pour pas mal de lectures et d'investigations. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que puisque ça arrive jusqu'à un imaginaire extrêmement contemporain et extrêmement populaire, on a parlé de Matrix par exemple, qui continue à poser ces questions et donc qui montre aussi comment un auteur enfin, marginal. Ça, c'est l'histoire qu'il a souvent décrit comme ça. Mais en tout cas, issu de pratiques d'avant-garde, de pratiques expérimentales, mais nourries de culture populaire, infuse et triangule et rebondit et se branche sur des imaginaires pour arriver finalement sur quelque chose qui remplit des salles de cinéma. Donc, c'est assez intéressant de partir sur ces pistes-là, d'arpenter un peu ces territoires en essayant de pister Burroughs. jusqu'à aujourd'hui, mais c'est évidemment fatalement très incomplet puisque ces rebonds successifs sont loin d'être complètement couverts dans ce livre-là.
Oui, il y a tout le rapport avec les musiques aussi expérimentales et tout ça, où il serait intéressant de voir quelle est la part de l'aspect science-fictionnel. Parce qu'on a beaucoup parlé du cut-up comme pratique reprise par Genesis Porridge, etc. Mais aussi à quel point ce qui a séduit et fasciné dans Burroughs, c'est cet aspect-là très science-fictionnel, et que certaines de ces musiques sont quand même travaillées aussi par le rapport avec la science-fiction. En général, il y a quelques études qui ont été faites dans les dernières années sur la SF et la musique, rock et tout ça, et c'est aussi un domaine très, très intéressant parce que tout ça était extrêmement, ce brassage très riche des années 60 autour de la contre-culture, la culture pop, l'héritage, la réinvention des avant-gardes dans ce contexte-là est encore très riche à explorer. Le livre est tout à fait passionnant et ouvre donc toutes ces perspectives-là. Donc évidemment, nous espérons que nos auditrices, auditeurs vont se pitcher là-dessus et partir dans ces labyrinthes-là. Comme les livres intéressants en général, c'est souvent aussi les portes qu'ils ouvrent qui est aussi très séduisant, c'est-à-dire qu'en le lisant, on a aussi des sortes de flashs, de dire « ah bah tiens, bah, ce lien, etc. etc. » Et puis on voit d'autres liens qu'on n'avait pas vus et qu'on aurait envie d'explorer. Et Clémentine Hougue, en ce moment, tu travailles sur des nouvelles perspectives?
Oui, je travaille avec dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle Ion, donc sur l'imaginaire du temps, qui est dirigé par Audrey Thuayon de Mézy. Et donc, nous travaillons un panorama de l'imaginaire du temps, donc avec une publication qui se prépare sous forme de dictionnaire, un dictionnaire du temps.
Est-ce que tu penses continuer sur Burroughs encore un peu ou
Ça a ouvert énormément de pistes. C'est vrai que ça fait très longtemps que je travaille sur William Burroughs et que comme j'ai d'autres objets d'étude, j'essaye de garder un équilibre suffisant pour ne pas être totalement parasité, sans mauvais jeu de mots, par l'œuvre de William Burroughs. Mais oui, puisque j'interviendrai dans différents séminaires là prochainement, notamment bah, puisqu'on parlait de musique, il y a un séminaire qui se tiendra en juin, le 17 juin, si je ne dis pas d'erreur, à l'Université Gustave Eiffel et qui aura d'ailleurs, qui sera accessible aussi par visio, puisqu'il est co-organisé par l'école doctorale et par l'association littérature populaire et culture médiatique autour de science-fiction et création sonore. Donc, dans le cadre duquel je vais parler de cut-up sonore cette fois, et donc des liens avec notamment la question du son dans certaines des dystopies ou des dystopies essentiellement que j'abordais un peu rapidement dans le livre et que je vais pouvoir un petit peu plus développer ici. Et puis autour de la question du fix-up aussi, l'histoire éditoriale de l'ASF par rapport à ses influences possibles sur William Burroughs et sur d'autres procédés d'écriture qu'on va retrouver dans la New Wave SF. Donc oui, non, ça, c'est toujours de toute façon, ça ouvre sur tellement d'auteurs passionnants et de principes et les questions non seulement des procédés d'écriture, donc vraiment dans des perspectives plus narratologiques, mais aussi de l'histoire éditoriale, de l'histoire culturelle, ça de toute façon permet des déploiements, des développements qui sont loin d'être terminés avec, j'espère, beaucoup de chercheurs et chercheuses qui auront envie de se plonger là-dedans.
Oui, je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent, c'est nous avons aussi le dossier sur Pop en Stock du cut-up au sampling, où il y avait notamment donc les articles de Christophe Becker sur Burroughs et Gibson. Et nous avons aussi donc les articles sur Love War Riot, donc les liens, donc la réappropriation industrielle de Burroughs chez Genesis P. Orridge. Donc, merci encore Clémentine, merci donc pour ce livre aussi, et à donc tous ceux et celles qui nous ont écoutés